Élégie 12. Palme triomphale, venez ceindre mon front. Je suis vainqueur. Elle repose sur mon sein, cette Corinne, qu'un mari, qu'un gardien, qu'une porte massive, que tant d'ennemis protégeaient contre toute surprise. S'il est une victoire qui mérite un triomphe, c'est celle qui, sans avoir coûté de sang, nous a livré notre conquête. Ce ne sont point d'humbles murailles, ce n'est point une place entourée d'étroits fossés. C'est le cœur d'une belle dont mon habileté m'a rendu maître. Quand Pergame succomba, vaincu après une guerre de 10 ans, entre tant d'assiégeants, quelle part de gloire revint-il au fils d'Arstrée? Ma gloire à moi est sans partage. Nul soldat ne peut y prétendre, nul autre ne peut faire valoir ses titres. C'est comme capitaine et comme soldat que j'ai vu le succès couronner mes attaques. Cavalier, fantassin, porte-enseigne, je fus tout à la fois, et le hasard ne fut pour rien dans ma victoire. À moi donc un triomphe obtenu par ces seuls efforts. Je ne serai pas non plus la cause d'une nouvelle guerre. Si la fille de Tindar n'eût pas été enlevée, la paix de l'Europe et de l'Asie n'aurait pas été troublée. C'est une femme qui, au milieu des fumées d'un vin pur, arma honteusement les uns contre les autres les sauvages Lapithes et la race des Centaures. C'est une femme qui, dans ton royaume, juste Latinus, força les Troyens à recommencer le sanglant combat. C'est une femme qui, dans les premiers temps de Rome, contraignit les habitants à se défendre contre leur beau-père. J'ai vu se battre des taureaux pour une blanche génisse qui, spectatrice de la lutte, enflammait leur ardeur. Moi aussi, je suis un de ces nombreux soldats enrôlés sous la bannière de l'amour, mais dans mes mains, elle est pure de sang. Élégie 13. L'imprudente Corinne, en cherchant à se débarrasser du fardeau qu'elle porte en son sein, a mis ses jours en péril. Sans doute elle méritait ma colère pour s'être, à mon insu, exposée à un si grand danger. Mais la colère tombe devant la crainte. Pourtant, c'est par moi qu'elle était devenue féconde, ou du moins, je le crois, car j'ai souvent tenu pour certain ce qui n'était que possible. Isis, toi qui habites Parménium et le champ fertile de Canope, et Memphis et Pharos plantés de palmiers, et les plaines où le Nil, abandonnant son vaste lit, va par 7 embouchures porter à la mer ses eaux rapides, je t'en conjure, par ton sistre et par la tête sacrée d'Anubis, et qu'à ce prix le pieux Horus agrée toujours tes sacrifices, que le serpent assoubi se glisse lentement autour des offrandes, et qu'au milieu du cortège s'avance Apis aux cordes dorées. Arrête ici les regards, et en sauvant ma maîtresse, épargne 2 victimes, car tous deux nous recevrons la vie, elle et toi, et moi d'elle. Bien souvent, tu l'as vu célébrer les jours qui te sont consacrés, à l'heure où les prêtres saignent leur front de laurier. Et toi, qui as pitié de jeunes épouses dans leur laborieux enfantement, alors que le fruit caché qui grossit leur flanc rend leur marche plus lente, Ilinie, sois-moi propice et daigne écouter ma prière. Elle mérite que tu la comptes au nombre de tes protégés. Moi-même, revêtu d'une robe blanche, je ferai fumer l'encens sur les autels. Moi-même, j'irai déposer à tes pieds les offrandes provises et j'y graverai cette inscription « Ovide, pour le salut de Corinne ». Oh, daigne mériter cette inscription et ces offrandes. Et toi, Corinne, si tout entière à la crainte, il m'est encore permis de te donner des conseils avant une telle épreuve, garde-toi d'en tenter une nouvelle. et les J-14. À quoi sert-il aux belles de n'avoir point à se mêler dans les combats et à se couvrir du bouclier? Sans aller à la guerre, elles se blessent de leurs propres traits et arment contre leur jour les aveugles mains. Celle qui, ta première, essaya de repousser de ses flancs le tendre fruit qu'il portait, méritait de périr victime de ses propres armes. Quoi ? De peur que tes flancs ne soient sillonnés de quelques rides, il faut ravager le triste champ où tu livras le combat. Si au premier âge du monde, les mères avaient eu la même coutume, le genre humain se serait éteint par leur faute. Il fallut un autre Deucalion qui sentit de nouveau dans l'univers dépeuplé ces pierres fécondes d'où sortir nos aïeux. Qui eût détruit l'empire de Priam si le sein de Tétis, divinité des airs, n'eût pas apporté son fruit jusqu'au jour fixé par la nature? S'il eût étouffé les jumeaux dont elle était grosse, c'en était fait du fondateur de la vie souveraine. Si Vénus eût fait mourir Aînée dans son sein, la terre était privée des Césars. Toi-même, qui devais naître si belle, tu aurais péri si ta mère avait accompli ce que tu viens de tenter. Et moi, dont la destinée plus heureuse est de mourir d'amour, je n'aurais jamais existé si ma mère m'eût étouffé dans son sein. Mais pourquoi dépouiller la vigne féconde du raisin qui grossit? Pourquoi, d'une main cruelle, arracher le fruit d'encore vert? Parvenu à sa maturité, il tombera de lui-même. Une fois né, laisse-le croître. La vie est un prix assez beau pour un peu de patience. Pourquoi déchirer vos entrailles avec un fer homicide? Pourquoi donner le poison mortel à l'enfant qui n'est pas encore? On ne pardonne pas la marâtre de Colchos d'avoir répandu le sang de ses enfants, et l'on plaint le sort d'Itis égorgé par sa mère. Toutes deux furent des mères cruelles, mais, guidées par un triste motif, elles se vengeaient d'un époux par le meurtre de leurs communs enfants. Mais vous, dites-moi, quelle terre, quel jason vous pousse à porter dans vos flancs une main sacrilège? Mais jamais on ne vit une telle cruauté chez les tigresses des antres de l'Arménie. Jamais la lionne n'osa faire avorter ses lionceaux. Il était réservé à de tendres beautés de le faire, mais non impunément. En étouffant son enfant dans son sein, souvent la mère périt elle-même. Elle périt, on l'emporte tout échevelée sur son lit, et chacun s'écrie en la voyant « sa mort est juste !» Mais que ces paroles se perdent dans le vide des airs, et que mes présages soient sans effet, Dieu clément. Que la première faute de Corinne reste impunie, et vous aurez assez fait pour moi. Elle expiera la seconde. Élégie 15. Anneau qui vas entourer le doigt de ma belle maîtresse, toi qui n'as de prix que par l'amour de celui qui te donne, va et sois pour elle un présent agréable, que, te recevant avec joie, elle le place aussitôt à son doigt. Sois fait pour elle, comme elle est faite pour moi. Sois la juste mesure de son doigt, sans le presser, trop heureux anneau. Ma maîtresse va te toucher en tous sens. Et là, j'envie déjà le sort de mon présent. Oh, que ne puis-je, par les enchantements des magiciennes Néa et du vieillard de Capatos, devenir tout à coup ce que je donne. Alors, je voudrais que ma maîtresse touchât à sa gorge et que sa main gauche se porta sous sa tunique. Je glisserai de son doigt si étroitement serré que j'y fusse, je l'élargirai par enchantement j'irai tomber sur son sein. Moi aussi, quand elle voudrait sceller ses tablettes mystérieuses et empêcher la cire de s'attacher à la pierre, je toucherai le premier les lèvres humides de ma belle maîtresse, pourvu seulement que je ne servis jamais à sceller un écrin douloureux pour moi. Si elle me donnait pour qu'un me plaçât dans l'écrin, je refuserais de quitter son doigt, et je me rétrécirais pour le serrer plus fortement. Que jamais, ô ma vie, je ne devienne pour toi un sujet de honte, ni un fardeau que refuse ton doigt délicat. Porte-moi, soit que tu plonges tes membres dans un bain tiède, soit que tu te baignes dans l'eau courante. Peut-être alors que, devant ta nudité, l'amour émerveillera mes sens et que, de ton anneau, je deviendrai ton amant.